les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Vie placée sous le signe de l'amitié, sous le signe de la révolte, sous le signe de la vigilance. C'est là le triptyque signé Jean-Marc Turine pour les Nuits magnétiques en 1997, consacré à Dionys Mascolo. Pourquoi vigilance dans le troisième volet d'aujourd'hui? Une intelligence qui ne se méfie pas d'elle-même, note Mascolo dans ses carnets, risque de tout simplifier dangereusement. La hâte qu'elle met à conclure conduit à l'erreur ou, grossièrement parlant, lui fait frôler la bêtise. Il n'y a pas de mystère, c'est la bêtise de l'intelligence même. Vigilance, donc, qui est d'abord exigence morale et à un degré suprême éminemment politique. Avec de nombreux documents, le bureau de Dionys, une vie placée sous le signe de la vigilance, 1997.
Nuit magnétique, le bureau de Dionys.
Je crois qu'il n'y a aucune guerre légitime sauf la guerre civile.
La pensée et la vie de Saint-Just sont un événement à ce point inaugural qu'on ne peut se défendre d'y voir la première figure d'une bonne nouvelle moderne. Non pas du tout révélée, mais telle qu'on peut la voir se dégager dans un grand désordre criant du travail que poursuivent depuis 150 ou 200 ans ce que Rimbaud nomma les horribles travailleurs. L'inhumanité de Saint-Just est en ceci qu'il n'a pas eu, comme les autres hommes, plusieurs vies distinctes, mais une seule, laquelle, à la prendre comme unification seulement, constituerait déjà un grand chef-d'œuvre. Il y a plus. La masse contingente que nous traînons partout avec nous, qui fait de nous penseurs des vaches dont un goitre alourdit tout mouvement de tête, cette misère et lassitude qui nous possède, il y échappe. En 1946, sous le pseudonyme de Jean Gratien, Dionys Mascolo publie, si la lecture de Saint-Just est possible, aux éditions de la Cité universelle fondées par Robert Antelme et Marguerite Duras. C'est aux mêmes éditions que Robert Antelme publie L'espèce humaine en 1947, et Edgar Morin, l'an zéro de l'Allemagne. Dionys Mascolo.
Si on lit Saint-Just, non, le comportement de Saint-Just avec des formules péremptoires comme « Nul ne peut régner innocemment » pour justifier la condamnation à mort de Louis XVI, etc., font une légende qui ne correspond pas exactement à ce qu'était, il me semble, la personne de Saint-Just. Il y avait évidemment une rigueur extrême, oui, mais il n'y avait rien de dogmatique. Il y avait c'était l'intuition révolutionnaire pure, plus pure que chez Robespierre, à mon avis.
Et vous pensez que cette intransigeance, encore une fois, pouvait servir de principe d'action, d'action politique dans la France de l'après-guerre ?
Mais je ne reprends pas à mon compte l'intransigeance. Si je dis rigueur, la rigueur, être rigoureux, est une nécessité absolue quand on prétend mettre en avant certains concepts et certains concepts applicables à l'existence concrète des hommes. Alors, c'est, je dirais, la rigueur, non pas l'intransigeance.
Un grand projet intellectuel vous mobilise depuis 1947, vous l'avez dit, c'est le l'écriture de ce livre, Le communisme. Qu'est-ce que vous vouliez défendre comme idée dans cet ouvrage ?
Ici, pour faire court et pour ne pas en juger moi-même, je vous citerai une parole de Maurice Blanchot, adressée à moi, oralement. Il m'a dit un jour, après que nous soyons entrés en amitié, il m'a dit un jour, le point fort de votre livre, c'est que de l'existence de la littérature, vous déduisez la nécessité du communisme. Ce qui m'a beaucoup étonné, parce que je savais bien qu'il y avait quelque chose de ça, et j'en avais plutôt honte, c'est-à-dire l'importance de la littérature qui avait été dominante dans ma vie. Et j'avais fait une part, en effet, je me souviens, importante au rôle d'écrivain devant la Révolution, mais je n'aurais pas imaginé que la logique même du livre pouvait apparaître à certains yeux, comme il me le disait, celle d'une déduction faite de la nécessité du communisme à partir de l'existence de la littérature. Mais je me fie à la lucidité de Maurice Blanchot.
Il n'y a pas d'intellectuel communiste, mais il n'y a pas d'intellectuel non communiste possible. Que signifie-t-elle, cette formule ?
Je ne vous en donnerai pas une interprétation. Elle signifie ce que ces mots veulent dire. Il n'y a pas d'intellectuel communiste, c'est-à-dire un strict communiste renonce à son rôle d'intellectuel s'il est fidèle aux directives de la direction. Mais il n'y a pas d'intellectuel non communiste possible, parce que je crois que l'intellectuel qui n'est pas le pur écrivain, mais qui intervient dans l'état de choses, ne pourrait qu'être alors réactionnaire. Et je pense qu'il n'y a pas d'intellectuel de droite. Un intellectuel est par définition de gauche, de ce que l'on entend par ces mots depuis déjà longtemps. Essentiel de toute recherche de pensée est l'exploration d'un inconnu. J'appellerais, si vous voulez, et même la reconnaissance d'un inconnu. Par exemple, l'impossibilité de nommer la nature d'un désir que j'ai, la nature d'un manque que j'éprouve. Je ne sais pas de quoi je manque. Je sens que je suis en manque. Cela, c'est l'inconnu tel que je l'ai désigné depuis, l'inconnu désirable. Par essence, cela fonde la possibilité d'une pensée révolutionnaire, l'existence d'un inconnu que, sans pouvoir le nommer, sans qu'on puisse le nommer, l'objet d'un désir. Je désire, mon désir, je ne peux pas le nommer, il est encore inconnu, mais je ne suis pas satisfait de ce qui est. Je ne sais pas exactement ce que je veux, je sais que je ne veux plus de ce qui existe.
1942. Himmler se rend sur les lieux. Il faut anéantir, mais productivement. Laissant la productivité à ses techniciens, Himmler se penche sur le problème de l'anéantissement. On étudie des plans, des maquettes. On les exécute et les déportés eux-mêmes participent aux travaux. Un crématoire, cela pouvait prendre à l'occasion un petit air carte postale. Plus tard, aujourd'hui, des touristes s'y font photographier. La déportation s'étend à l'Europe entière. Les convois s'égarent, stoppent, repartent, sont bombardés, arrivent enfin. Pour certains, la sélection est déjà faite.
Lettre polonaise sur la misère intellectuelle en France. En Pologne, Auschwitz. Après une heure de visite, extraordinaire fatigue. Ce n'est pas l'émotion, non. C'est plutôt le dégoût. Un mélange d'ennui et de dégoût. Mais il faudrait parler d'ennui et de dégoût absolu, comme on parle d'amour absolu. Ennui et dégoût qui font un instant regretter vraiment l'absence de Dieu. Souhaiter à nouveau et de toute son âme qu'existe une toute-puissance. Lui cracher à la figure. Nulle révolte. Il n'y a rien contre quoi se révolter. Il n'y a même rien à comprendre et rien à défendre. Rien n'a d'intérêt. Seul satisferait le Dieu sadique, sous les coups duquel on aurait plaisir à mourir. Dans le film de René, la caméra fait faire au regard l'abominablement longue ascension de la montagne de cheveux de femme. Et lorsqu'elle arrive au fait, on suffoque. La masse des cheveux est ici donnée d'un coup. Ce n'est plus l'horreur nue, la pitié sublime. C'est l'accumulation de quelque chose d'immonde sur des profondeurs infinies. La vermine fourmillante d'une voûte céleste où la vue se perd. Masse écœurante qui fait monter un écœurement de tête indicible. Une ineffable envie de vomir ses entrailles de tête. Si l'on se détourne, une autre victime expose à côté des brassières d'enfants. Après la projection du film de René, je m'étais déjà retrouvé fin d'après-midi en juin dans le brouhaha heureux de la foule des Champs-Élysées, en enfer. L'humanité entière mise en accusation, le visage humain dégradé. Ce que je venais de voir allait infiniment plus loin qu'une preuve contre les seuls nazis. Tout le monde était capable de cela. On ne fait pas de polémique, mais on a souffert. Et souffert notamment de ne pas dire les choses qui devaient être dites. Les dire aujourd'hui, ce n'est pas polémiquer, c'est se libérer. C'est exercer le devoir sacré d'insurrection et contre les formes les plus insidieuses de la tyrannie. Celles qui par nature peuvent le mieux nous rendre complices de ceux qui tentent de nous réduire au silence. Je veux dire les pouvoirs quasi-religieux de l'intelligence, les prestiges de la raison, ses habiletés, la comédie des spécialistes, propriétaires privés des moyens d'expression, détenteurs exploitants de ce privilège qu'est encore le droit à la parole, juges des raisons de vivre des autres, et dont la parole, comme celle des juges de la justice, ne sert en vérité le plus souvent qu'à faire taire.
Pour les autres, on trie tout de suite. Ceux de gauche iront travailler. Ceux de droite... Ces images sont prises quelques instants avant une extermination. Prend du temps. On commande les boîtes de gaz cyclone. Rien ne distinguait la chambre à gaz d'un bloc ordinaire. À l'intérieur, une salle de douche fausse accueillait les nouveaux venus. On fermait les portes. On observait. Le seul signe, mais il faut le savoir, c'est ce plafond labouré par les ongles. Même le béton se déchirait.
lendemain, à la Weinstein, 1987.
La lettre polonaise, c'est aussi un livre de rupture avec le communisme.
La rupture avec le communisme dans les formes, disons, sociologiquement définies qu'il avait prises à l'époque, elle était déjà accomplie. Elle était accomplie au début de 50. Ça, c'est 57, c'est après la révolte. La révolte hongroise, la révolution hongroise et le printemps en automne de Varsovie. Alors, nous étions allés, Robert Antelme, Claude Lefort, Edgar Morin et moi, en Pologne en janvier, voir les amis polonais, et nous découvrions là ce que nous avons été tentés d'appeler un renouveau de l'idée communiste, un communisme libéral, démocratique, libéral, enfin, délivré du stalinisme, et peut-être en passe, du moins l'espérions-nous, même de renvoyer au passé le léninisme. Nous étions allés assez loin dans ce qu'on peut appeler alors un révisionnisme du marxisme-léninisme, pour ne garder du marxisme que sa critique de la division de la société en classes, sans préjuger du tout de ce que peut être une prise du pouvoir par un prolétariat qui est toujours trompé par ses guides, ses chefs. En sortant d'Auschwitz, c'est ici qu'il faudrait se suicider. Oui, parce que c'est sortant d'Auschwitz, on se dit que c'est l'humanité qui est coupable de cela. Il y a un soupçon sur l'homme en soi, sur tout homme. On se trouve une contagion de culpabilité, enfin. L'homme, ce sont les hommes qui ont été capables de cela. Ce sont des hommes.
Nous sommes affreusement à plaindre, écrivez-vous.
En effet, la haine de ce qui est humain et qui est capable de créer quelque chose comme Auschwitz était le sentiment qui pouvait nous habiter. Après avoir vu le film de René aussi, je me souviens très bien de cela, la foule dans la rue me répugnait. Nous étions tous répugnants, nous étions tous des ordures. Voilà le sentiment qui m'avait envahi dans ces moments-là.
Auschwitz ne symbolise pas seulement le martyr juif, écrivez-vous, mais aussi le martyr de la Pologne.
Ah, en effet, la Pologne est le pays martyr par excellence de cette Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais plus, il y a que 30% de la population polonaise qui a été exterminée. Varsovie a été rasée. Mais rasé, c'est-à-dire vraiment au sens propre.
Profil perdu, Jean Dève, 1992.
La déclaration sur le droit à l'insoumission a eu un retentissement énorme à l'étranger aussi. Et nous avons reçu d'Italie venant d'Elio et de beaucoup d'autres, de Moravia, de Pasolini, d'Elsa Morante, etc., etc., et d'Allemagne. Et d'Angleterre aussi, et d'Amérique, mais surtout d'Italie et d'Allemagne, des textes, des manifestes d'intellectuels, d'écrivains qui se déclarent entièrement solidaires de la déclaration, qui disaient « nous la reprenons à notre compte à l'égard de nos propres pouvoirs ». Cette déclaration défend tout simplement le droit de n'être pas des oppresseurs.
Nous affirmons la même chose. Il y a eu une telle unanimité parmi les écrivains étrangers qu'il est né dans la tête de Blanchot l'idée, mais pourquoi ne pas profiter de cela pour tenter de faire ensemble. Oui, ça devenait une internationale de l'écriture, en quelque sorte. Pourquoi ne pas en profiter pour faire une revue internationale ? Et Blanchot est allé jusqu'à écrire. Et d'abord, il a convaincu Nadeau de s'aborder sa revue, Les Lettres Nouvelles, et il a été jusqu'à écrire à Sartre, d'accord avec Nadeau, laissez tomber les temps modernes et faisons une revue nouvelle. Pardon, je fais marche arrière. C'était d'abord, il proposait à Sartre une revue française qui aurait été tout à fait différente des revues classiques, qui sont des conglomérats de textes sans rapport les uns avec les autres, alors qu'il proposait une revue de communauté d'esprit, de perspective. Donc vous voyez, une sorte de, comme j'ai l'habitude
dont
de
l'objet
dire,
ne serait pas nécessairement la littérature.
Et pas uniquement, mais littérature et révolution ne forment qu'un pour nous. Un peu comme d'ailleurs dans le premier Hölderlin, l'échange de pensées entre amis, ça n'est pas simplement l'intérêt littéraire qui les lie, les amis. C'est le sort du monde aussi, qui ne se distingue pas de la recherche des beautés poétiques ou littéraires. Bon, et de là, toujours chez Blanchot, est née l'idée d'une revue internationale. Une revue internationale qui, elle aussi, aurait été non pas un conglomérat de textes littéraires, mais bien la mise en commun de réflexions, de questionnements, d'hypothèses, etc., qui, d'un numéro à l'autre, se seraient répondues par des gens qui étaient liés par les mêmes exigences ensemble. Si vous voulez, pour aller à l'encontre d'une terminologie qui règne aujourd'hui dans les médias, je dirais que sera toujours d'actualité ce que j'appelle un communisme de pensée. Mais toujours le corps de la revue était fait par ce qu'on avait appelé le cours des choses, qui était fait de ce que Blanchot appelait la forme fragmentaire, qu'il a beaucoup pratiqué lui-même, ou la forme brève, enfin. On conseillait aux collaborateurs de mettre en œuvre l'esprit hypothétique, c'est-à-dire qui désigne un inconnu plutôt qu'il n'apporte une réponse.
Maurice Nadeau.
Alors, en fait, le projet d'étendre des liens. Moi, j'avais lancé un petit peu utopiquement l'histoire d'un parti intellectuel. Enfin, je voyais, bon, on avait tous des intérêts communs entre intellectuels de tous les pays. C'était le moment de faire quelque chose. Je pensais à Peggy, je pensais à des tas de trucs. Bon, enfin, ça, c'est pas fait. Mais ça se rejoint tout de même dans ce projet de revue internationale où on va mettre en commun les efforts d'écrivains qui sont proches quand même. Hein. C'est pas n'importe qui. Enfin, bref, il y avait déjà le noyau de ceux qui devaient faire la revue. Mais alors, c'était un projet si ambitieux qu'il aurait fallu d'autres circonstances, d'autres événements pour que ça cristallise. Alors, on s'est réunis. Non, il y avait des histoires d'éditeurs. Il fallait que ça soit publié en plusieurs langues. Hein. Ça, c'est le côté éditorial. On s'est débrouillé. On avait Zurkamp en Allemagne, on avait Gallimard en France. Gaston disait, ah, tant mieux, ça va me débarrasser de la NRF, je remplace, etc. Moi, j'avais proposé de laisser tomber ma revue et de, s'il fallait, bon, très bien. Et puis ensuite, on s'est aperçu que les langues, enfin, étaient quand même aussi ouais, c'est triste à dire, mais les langues nationales étaient un obstacle à ce projet international. C'est-à-dire que les Allemands parlaient un certain langage qu'on ne comprenait pas. Et eux, ils ne comprenaient pas le nôtre. C'est-à-dire qu'on parlait apparemment de choses qui, qui devaient intéresser les uns et les autres, mais on mettait sous les mots des choses différentes. Ce qui fait que ce projet, on a fait un numéro zéro, on avait rassemblé déjà tous les textes pour le premier numéro, il a paru, c'est Vittorini qui l'a fait paraître, ce numéro existe, donc ça a été publié, mais on voit déjà que c'est un projet qui n'ira pas très loin, quoi.
Voix du silence, Antoine Speer, 1988.
Ces jours-là ont été un bonheur, en effet. On rencontrait, on était abordé dans la rue, en dehors des manifestations même, par des vieilles dames qui disaient mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Ah, c'est ça que vous voulez? Ah, oui, je comprends. Les armures où d'habitude chacun s'enferme étaient déposées, étaient tombées. Pendant ces temps-là, la parole s'est exercée dans un communisme réalisé. Mai 68 a été le moment où un futur a été vécu. Un avenir a été préfiguré là et a été existentiellement vécu en effet. Naturellement, ces moments-là ne résolvent rien, mais ils préfigurent un avenir en effet, comme les moments d'exaltation poétique ou les moments d'exaltation, je dirais, amoureuse, qui non plus ne durent pas, mais qui indiquent ce que serait un temps où la satisfaction serait toujours à plein bord.
C'est extraordinaire, ce rêve de satisfaction à plein bord, ce rêve, en fait, d'une société où tout serait réconcilié avec tout, qui vous a accompagné pendant toute votre existence. On a l'impression que pour vous, l'utopie, au bon sens du terme,
oui,
c'est quelque chose qui est tout le temps présent.
En effet, mais vous savez, je crois que cela est très partagé. Simplement, la honte qu'il y a à l'avouer, comme si on était resté enfantin, fait qu'on ne met pas trop cela en avant. Mais en effet, je donnerais à utopie un sens positif, non pas du tout dépréciatif, comme on l'emploie le plus souvent. Il est bon, en effet, d'entretenir, sans naturellement tomber dans le mensonge qui consisterait à présenter quelque réalisation que ce soit comme réalisation de l'utopie. L'utopie est l'avenir indéfini. Cela ne se réalisera jamais totalement, sinon ce serait vraiment, il n'y aurait plus alors qu'à mourir, se tuer tous dans le bonheur de l'accomplissement.
Vu la cruauté de la police, il n'est pas nécessaire de mener des combats d'arrière-garde. J'appelle tous les syndicats, au-dessus de toute divergence, de lancer un appel à la grève générale de solidarité aux étudiants.
Dans Comité, bulletin publié par le comité d'action étudiant-écrivain au service du mouvement, Dionis Mascolo a écrit 7 textes. Le pouvoir de la rue, une illusion très générale, les 2000 mots, juillet-mai les communistes de salut, la pharisienne, la théorie force matérielle.
Mon cher Dionys, je vais essayer de t'écrire quelques lignes, c'est-à-dire d'accomplir mon premier acte de vivant solidifié. Car j'ai déjà accompli de nombreux actes de vivant. J'ai notamment pleuré, et les larmes sont aussi loin que possible de la mort. C'est à toi que j'écris le premier, car je veux que tu puisses entretenir en toi, peut-être quelque temps de plus, le merveilleux sentiment d'avoir sauvé un homme. Je dis quelque temps car autant le sauvé garde éternellement devant lui l'image du sauveteur, autant le sauveteur a tendance à voir s'estomper celle de son acte et même à banaliser le sujet qu'il a arraché au mal. Je voudrais te dire d'autres choses sur ce sujet qui me paraissent importantes, mais je m'aperçois que je cours un assez grave danger. Je crois que je ne sais plus ce que l'on dit ou ce que l'on ne dit pas. Dans l'enfer, on dit tout. Ce doit d'ailleurs être à cela que nous le reconnaissons. Pour ma part, c'est surtout comme cela que j'en ai eu la révélation. Dans notre monde, au contraire, on a l'habitude de choisir, et je crois que je ne sais plus choisir. Eh bien, dans ce qui chez d'autres représentait pour moi l'enfer, tout dire, c'est là que j'ai vécu mon paradis. Car il faut que tu saches bien, Dé, que pendant les premiers jours où j'étais dans mon lit et où je vous ai parlé, à toi et à Marguerite surtout, je n'étais pas un homme de la terre. J'insiste sur ce fait qui me rend rétrospectivement. Si l'on voulait donc voir se former un homme, on pourrait m'observer de près en faisant la part du caractère morbide de la formation. Tu es certainement l'un des seuls êtres dont je crains le plus la fatigue, je veux dire le désespoir. Il y en a que j'aimais beaucoup et dont le désespoir m'était indifférent. J'entends par là une sorte d'état définitif. Je les laissais dans leur état, ou je les remontais voluptueusement ou avec mal. Pour toi, des dont le désespoir ne doit cesser de se mêler de joie, de fugue et de halte insondable, je ne pourrais supporter maintenant, surtout, que ce désespoir se fige et s'installe. Je t'ai dit que je n'avais pas peur, et telle est ma seule peur. Mais je crois que je t'accapare un peu trop. Maintenant, je n'en ai plus le droit. Le mirage a cessé. Je recommence à me ressembler. J'ai d'ailleurs une crainte, je dirais presque une horreur, de rentrer dans cette coquille. Je ne pensais pas que le voyage infernal ou merveilleux finirait jamais. Je parle de ces dernières semaines. Tous mes amis m'accablent avec une satisfaction pleine de bonté, de ma ressemblance avec moi-même. Et il me semble que je vis à l'envers le portrait de Dorian Gray. Il m'est arrivé l'aventure extraordinaire de pouvoir me préférer autre. Alice va à Paris, je lui remets ses feuilles. Je ne les ai pas relues entièrement, excuse-moi. Je continuerai sans doute parce qu'en te les adressant à toi, je n'ai pas trop l'impression de perdre mon temps. Essaie si tu le peux d'y trouver plus d'objectivité, je souhaitais en mettre. Cela m'étonnerait malheureusement. Bien à toi, Robert, jeudi 21 juillet 1945. Extrait du livre de Dionys Mascolo, autour d'un effort de mémoire, sur une lettre de Robert Anthelme.
Georges Golfagne.
Il m'a effectivement montré des textes à l'état de manuscrit non achevé, non pas pour que je sois un correcteur, mais pour que il raturait beaucoup, il faisait de multiples états de ces manuscrits, et j'imagine qu'il était tout à fait prêt à en faire un autre si d'aventure une objection était formulée à telle ou telle de ses pensées, ou bien si apparaissait une difficulté de lecture, car il tenait absolument à ce que ce soit d'une lisibilité totale, d'une transparence complète. Et oui, j'ai eu ainsi le privilège, pour parler en termes de grande harmonique, donc de prendre connaissance de ce texte qui a été publié sous le titre d'Un effort de mémoire, et d'en parler longuement avec lui avant qu'il ne fût publié. Oui. Thank you.
Les Voix du silence, Antoine Speer, 1988.
5 semaines après la sortie de Dacho, et c'est-à-dire moins de 10 jours après qu'on l'ait déclaré hors de danger. C'est le moment où, pour la première fois, il écrit. Et il m'écrit pour, en somme, tenter de continuer à parler comme il avait intarissablement parlé pendant toute cette sorte d'agonie où il avait été plongé pendant 4 semaines et où il ne cessait, en effet, de parler pensant qu'il allait mourir, donc pour que quelque chose de son témoignage lui survive. Je reviens là-dessus parce que cette lettre, qui est extraordinaire, qui indique à partir de quelle source il pourra, 1 an et demi après, écrire son livre, L'espèce humaine, mais où il emploie une parole qu'il ne pourra plus employer lorsqu'il écrira véritablement, car par cette lettre, il n'écrit pas encore, il continue de parler. Il est encore d'outre-tombe. Le passage que vous avez cité tout à l'heure est précédé par « Je ne sais plus ce que l'on dit et ce que l'on ne dit pas ». Dans cette lettre, il est dans l'effusion du tout-dire, comme on n'est jamais que peut-être dans des états d'extrême exaltation poétique, amoureuse, ou encore comme a pu l'être, à sa manière, dans le tout-dire, cette espèce de poète qu'a été le marquis de Sade. Je le nomme en dépit de ce que cela peut avoir de choquant dans le contexte dont nous parlons. Je crois que ce dont j'ai voulu témoigner, c'est de la séduction, contagion que tout ce qu'avait pu nous dire Robert avait exercé sur nous. Et comment, d'une certaine manière, que les spécialistes peuvent appeler névrotique, nous avons involontairement fait comme si nous vivions une expérience analogue à la sienne. Je ne m'explique qu'ainsi la façon dont nous, autour de lui, n'avons pas pu nous résoudre à nous installer au monde, à nous faire une vie personnelle, disons. Il parle dans cette lettre de l'état d'indétermination où il est au moment de renaître. Il insiste beaucoup là-dessus. Eh bien, il nous avait plongé dans une indétermination voisine. Mais de cela, je ne me suis rendu compte que, rétrospectivement, aujourd'hui, réfléchissant à et tentant d'expliquer le style de vie qui a été nôtre et qui n'était pas choisi par le choc qu'avait été son expérience, qui n'est jamais mieux exprimée que dans cette lettre précisément.
Voici la lettre que Gilles Deleuze a envoyé à Dionys Mascolo le 23 avril 1988. Cher Dionys Mascolo, merci profondément de m'avoir adressé autour d'un effort de mémoire. Je l'ai lu et relu. Depuis que j'ai lu Le communisme, je crois que vous êtes un des auteurs qui ont le plus intensément renouvelé les rapports de la pensée et de la vie. Vous arrivez à définir les situations limites par leur suite intérieure. Tout ce que vous écrivez me semble avoir la plus grande importance, la plus grande exigence. Et une phrase confirme celle-ci. Un tel bouleversement de la sensibilité générale ne peut manquer de conduire à de nouvelles dispositions de pensée. Me semble dans sa pureté contenir une sorte de secret. Je vous dis mon admiration, et si vous le permettez, mon amitié.
Ah ben moi, pour moi, c'est une des choses les plus émouvantes que j'ai jamais publiées de ma vie. Hein. C'est ça. Alors c'est difficile d'en parler parce que quand elle m'était... Je ne peux pas en parler parce que quand elle m'était un ami aussi que...
Maurice Nadeau.
Que j'ai... Enfin bon, c'est pas la peine de... Anthelme est mort le jour où on avait rendez-vous, on devait déjeuner, quoi. Je ne peux pas parler de cette histoire parce qu'elle me tient trop à cœur. Bon, Dionys m'a proposé ça, bon, c'est même pas d'édition, c'est un acte comme ça de camaraderie, quoi.
En quatrième de couverture de son livre « Haine de la philosophie », Dionys Masculo écrit ceci. « Ce qui est dit là de la philosophie est mis en rapport avec la personne et l'œuvre de Heidegger, tant la dextérité dialectique n'a d'égal que la bassesse d'âme. Heidegger conduit à une haine de la philosophie en un sens analogue à celui où Georges Bataille parle de haine de la poésie. » Du jour au lendemain, Alain Weinstein, 1993.
Heidegger est le modèle même du. Est un exemple parfait du danger de la pratique philosophique, à savoir que la pensée technicienne du philosophe peut le conduire à juger secondaire sa conduite de la vie. C'est cela que j'oppose. C'est en cela que j'oppose une pensée entière qui ne peut pas être philosophique, car la pensée entière exige le plein accord de la conduite de la vie avec la tentative d'exercer les facultés proprement intellectuelles. Mmh. Je dois dire qu'en comme lecteur de Heidegger, je suis passé par tous ces états, en effet. La séduction est réelle à la première lecture, il n'y a pas de doute. Ensuite, bon, on se demande où on est conduit vraiment, ça devient suspect, puis on s'aperçoit qu'il y a une prestidigitation, des jeux de mots qui ont transformé la pensée sans s'avouer, etc. C'est-à-dire une sorte de mensonge généralisé qui serait apparent dans d'autres textes et qui, ici, apparaît moins, car le tout est pris dans le jargon philosophique spécialisé, technique. Alors, on est intimidé.
C'est une pensée, alors disons-le quand même, qui donne la priorité à la lutte contre l'oubli de l'être. L'être,
oui.
Avec un E majuscule.
L'être, en effet. L'être qui est... purement mythologique. Enfin, c'est l'oubli de Zeus. Il n'y a pas de différence entre l'être et l'être suprême, et le très haut des monothéistes.
Dans son livre, Dionys Masculo rappelle quelques dates. Le discours du rectorat est prononcé le 27 mai 1933. Hitler est chancelier depuis le 30 janvier. Le programme exposé dans Mein Kampf a commencé d'être appliqué. Le 20 mars, s'est ouvert le premier camp de concentration, Dachau. Le 1er avril, le parti décide le boycott des magasins juifs. Le 7 avril, une loi exclut les juifs de la fonction publique. Tout au long du mois de mai, se multiplient dans les rues, au carrefour, de spectaculaires autodafés de livres.
Il analyse le discours du rectorat, c'est-à-dire son adhésion, le discours qu'il prononçait aux étudiants, proclamant son adhésion au nazisme, il l'analyse dans des termes absolument contraires à tout ce qui est dit je ne veux pas entrer dans le détail, ça nous mènerait beaucoup trop loin. Là, il faut lire.
C'est un monument de mauvaise foi.
Un monument de mauvaise foi, en effet. Mais ça, je défie quiconque de lire ce texte sans... de lire les deux textes, c'est-à-dire le discours du rectorat et sa défense, son plaidoyer, sans être bouleversé par la falsification monstrueuse.
À la recherche d'un communisme de pensée, 1993, du jour au lendemain.
Ce n'est pas exactement un projet de moi, ce sont des amis qui m'ont dit, mais je viens de trouver chez un libraire d'occasion la préface à l'Antéchrist de Nietzsche. C'est un texte qui m'a beaucoup frappé, tu devrais recueillir tes principaux textes. Voilà, c'est ainsi que j'en suis venu à les recueillir. Pour une raison, c'est que après que l'on m'ait dit ça, j'en ai relu quelques-uns et j'ai constaté qu'il y avait une sorte de continuité de pensée qui faisait qu'il ne s'agissait pas d'une anthologie ou d'un recueil d'articles sans rapport les uns avec les autres, vous comprenez ? Ce qui m'encourageait en effet à reprendre à mon compte cette idée.
Il y a à la fois des...
D'où le titre, d'ailleurs, « À la recherche d'un communisme de pensée », qui est placé sous le signe de Hölderlin.
Un poète. Pourquoi vous avez si peu écrit ?
Je ne saurais pas répondre à cette question. Non, c'est que j'étais très incertain de la nécessité de l'écriture. Je continue à penser d'ailleurs. Et si vous voulez, alors, pour donner la parole à autrui, je cite quelque part, et je vais vous le citer en ce moment, un mot de Nietzsche. Il parle des artistes, donc aussi des écrivains. Et il dit... Leur force s'arrête là où s'arrête leur art. Mais nous voulons être les artistes de notre propre vie, et cela jusque dans les plus petites choses. Être l'artiste de sa propre vie, ça veut dire qu'on ne peut pas distinguer entre les diverses facultés qui nous habitent, y compris celles qui dictent la conduite de la vie. La conduite de la vie est tout aussi importante que les pensées qui nous traversent ou les pensées que nous cherchons un peu par force ou par technique ou par professionnalisme, ce qui me fait horreur. J'ai horreur, disons, de ce que j'appellerais, d'un argot que vous me pardonnerez, les intellos, qui sont presque tous des cuistres, qui mettent en avant des pensées qui ne correspondent pas justement à la totalité de la mise en œuvre des facultés, de nos facultés. D'où peut-être cela explique la méfiance que j'ai toujours eue à l'égard de l'écriture. Ce qui explique peut-être, je réponds ainsi peut-être à votre question, pourquoi je n'ai pas écrit davantage. C'est qu'avant d'écrire, il fallait que je sente une nécessité qui ne se présentait pas toujours. J'ai d'ailleurs tenté depuis très longtemps, et c'est toujours, je n'ai pas renoncé tout à fait à ce projet, mais un ouvrage qui aurait été très long et dont il n'existe que 150 pages environ, mais qui aurait dû en avoir un millier, et qui était en partie un essai, une méditation et un récit. C'est-à-dire, il y avait là-dedans la dimension romanesque. Et sans doute, je n'aurais pas le temps d'en venir à bout. Mais il y a au moins une vingtaine d'années que j'avais commencé cela, voilà.
Le coup de tête. C'est un soir de 1939, aux approches de l'automne, au sortir de l'enfance, alors qu'il atteignait juste à l'âge d'homme officiel, qu'advint à Baptiste, sans y avoir été nullement préparé, de se mettre à réfléchir avec persévérance et force, cherchant s'il pouvait se dire certain de quelque chose, et cela ne lui était jamais arrivé. Il n'y était d'ailleurs pour rien. N'avait rien décidé, souhaité, ni même vaguement imaginé rien de pareil, jamais. Il pouvait l'en jurer, fût-ce entre veille et sommeil, dans les moments où l'on dit qu'une censure se relâche, il n'avait caressé semblable projet, jamais peloté pareille ambition. Il ne s'en trouvait pas moins embarqué dans une entreprise qui lui parut immédiatement sans excuse, sorte d'exploit sportif ou partie de chasse insensée, qu'il ne dépendait que de lui d'interrompre en apparence, puisqu'il la poursuivait en solitaire, comme pour le plaisir, mais non. D'abord, il n'y trouvait pas de plaisir. Ensuite, cette chasse qui n'avait rien de volontaire et rien non plus de raisonnable, n'avait même rien d'humain. C'était une chasse animale, où l'on aurait su dire qui était le fauve ou la proie, où lui seul, il était le fauve et la proie. Fauve peut-être, mais alors lui-même traqué par le fauve bien plus féroce de sa propre faim. Si bien que s'il cherchait à nommer sa frayeur, il ne trouvait rien d'autre à désigner que ce qu'il sentait qui en lui était en train de devenir féroce. De quoi il aurait certes pu s'enorgueillir et se dire « je me fais peur » pour dire ce dont il se sentait supérieurement devenu capable. Mais il était sans cynisme, et sa frayeur n'en était qu'aggravée. Il avait beau se dire qu'il n'était que la proie d'une faim dévorante, caprice de l'âme sans doute, oui de l'âme, cela de perpétuellement affamé, mais dont il n'était pas possible de penser qu'il était réellement la proie, puisqu'il en était aussi le porteur, et que si faim il y avait, elle n'était après tout qu'une faim abstraite. Il voyait bien en même temps qu'elle ne l'en conduisait pas moins à l'animalité sans phrase, et quelle jungle venait de s'ouvrir devant lui.
Il porte un sous-titre, ce livre, Entêtement, au pluriel. C'est un nouveau genre littéraire.
Il y a, en quatrième page de couverture, un petit commentaire essayant de justifier l'emploi de ce mot. Je veux dire, par entêtement, je veux dire qu'il ne s'agit pas, justement, au contraire de la démarche philosophique, vous savez, qui est une démarche volontaire, préméditée. Je voulais dire par là que et ce qui a donné lieu à l'écriture de la plupart de ces textes, ce ne sont pas des pensées déjà toutes faites, mais plutôt des impulsions, des réactions, des révoltes, des indignations, c'est-à-dire des sentiments très complexes qui appartiennent autant au cœur, à l'âme, qu'à l'esprit, et qui finissent par vous monter à la tête, par vous entêter, d'où le mot d'entêtement que j'ai employé pour les désigner. Voilà.
Jean-Pierre Saez.
Il a toujours été à la pointe d'un certain nombre de combats, et je dirais même, même s'il avait une certaine admiration, évidemment, pour Sartre, d'une certaine manière, il avait de l'avance sur lui. Il était bien plus jeune que Sartre, évidemment. Mais que ce soit sur la question de la guerre d'Algérie, que ce soit sur la question de la Hongrie et de la Pologne, sans que Sartre ait particulièrement à démériter en la matière, encore qu'il avait, entre 52 et 56, c'était un compagnon de route fervent, et ou que ce soit au moment du manifeste des 121, eh bien, Dionis, avec certains de ses amis, a voulu montrer la voie. Et d'ailleurs, le manifeste a été signé dès demain par Sartre. Sa signature est extrêmement précieuse pour l'ensemble des intellectuels qui soutenaient cette initiative, évidemment. Mais ce n'est pas lui qui était intellectuellement à l'origine de ce projet. Mmh. Et donc, cela fait aussi partie de l'œuvre de Dionis Mascolo, c'est-à-dire cette capacité à intervenir sur la scène publique et à dire non, on ne peut pas tout laisser faire, et il faut qu'il y ait des instances extérieures, non seulement au pouvoir, aux institutions, mais aux institutions également, que sont les syndicats ou les partis. C'était de ce point de vue-là, il a eu du mal à conquérir cette liberté. Mais c'était un homme libre du point de vue des relations aux appareils politiques. Ce dont je voudrais témoigner, c'est qu'il voulait penser de façon souveraine et se mettre en situation de ne rendre de compte finalement qu'à sa conscience et à l'idée qu'il se faisait de la justice humaine.
Thank you.
janvier 1997, 7 mois avant sa mort, Dionis Mascolo s'est entretenu avec Aliette Armel.
Dans l'expression « absence de Dieu », il y a à la fois un regret et une affirmation d'athéisme. Il n'y a pas de Dieu. Alors, cela veut dire que l'univers n'a pas de sens. Et dans le double sens d'un constat d'un malheur métaphysique et en même temps de négation de toutes les croyances, c'est à nous de donner un sens à l'univers. Il n'en a pas avant que l'homme ne s'exprime. C'est très tôt que j'ai constaté d'abord comme une sorte de malheur l'absence de Dieu, puis comme le devoir que cela imposait à l'homme de donner un sens à l'univers, de donner un sens que l'univers n'a pas. La négation de Dieu, l'absence de Dieu et la négation de Dieu, l'une s'ajoutant à l'autre, nous a conduit à chercher à guérir de cette absence par l'adhésion à l'idée communiste.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Avec la voix de Dionis Mascolo, la participation de Maurice Nadeau, Georges Golfagne et Jean-Pierre Saez. Les archives sont extraites de « L'esprit d'insoumission » de Jean Mascolo et Jean-Marc Turine, « Du jour au lendemain » dans la Weinstein, « Profil perdu » de Jean Dève, « Les voix du silence » d'Antoine Spire, « Duras, Dieu et l'écrit » de Aliette Armel et Alain Guillon, lecture André Wilms. Ami Flamère a interprété au violon, à la Claire Fontaine, Le Temps des cerises et Pauvre rue de bœuf mis en musique par Léo Ferré. Numanitique, Le bureau de Dionis. Une émission de Jean-Marc Turine. Mixage, Édouard Campras et Fabienne Bellou. Réalisation, Dominique Costa.
Cry. I watch them grow. They'll learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
C'était Le bureau de Dionis, troisième et dernier volet, une vie placée sous le signe de la vigilance, une émission diffusée la première fois le 14 novembre 1997.